Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 15 janvier 2015-2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Olgotson. Tout d'abord les titres.
En Sierra Leone, enquête sur un décès suspect d'Ebola, alors que la fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest a été déclarée hier par l'OMS.
Au Nigeria, des parents rencontrent le président Buhari pour réclamer à nouveau la libération des lycéennes de Chibok, encore aux mains de Boko Haram.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a averti les belligérants en Syrie qu'utiliser la famine comme arme de guerre est un crime de guerre. Le Conseil de sécurité tient une réunion d'urgence sur la question aujourd'hui.
Les candidats à l'investiture républicaine ont eu un autre débat télévisé hier soir en Caroline du Sud. Et ne manquez pas la Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. La Sierra Leone et des responsables sanitaires enquêtent sur un décès suspect d'Ebola dans le nord du pays après qu'un premier prélèvement a été testé positif à ce virus jeudi. C'est ce qu'ont annoncé à l'AFP deux sources officielles Sierra Leonaise, Jean-Roger Bion.
Cette annonce intervient quelques heures après la proclamation par l'Organisation mondiale de la santé, jeudi, de la fin de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, avec l'arrêt de toutes les chaînes connues de transmission au Libéria comme dans l'ensemble de la région. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le porte-parole du gouvernement sierra-léonais, Abdoulaye Ibérété, et un haut responsable du ministère de la Santé, ayant requis l'anonymat, ont fait état à l'AFP d'un décès suspect d'Ebola dans la ville de Magburaka, située dans le district septentrional de Tonkolili. Un premier prélèvement a été testé jeudi par des responsables sanitaires sierra-léonais, des membres de l'OMS et des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, CDC. Ils ont été dépêchés de Freetown pour conduire sur place des enquêtes poussées, a affirmé M. Bérété, joint par téléphone sans fournir de détails.
De nombreux parents des plus de 200 lycéennes enlevées par le groupe islamiste Boko Haram ont à nouveau réclamé leur libération hier lors d'une rencontre avec le président Muhammadu Buhari. Les détails avec John Lyndon.
Quelques 300 manifestants, dont plusieurs étaient en larmes, ont marché dans les rues d'Abuja avant d'être amenés en bus à la présidence pour une audience avec le président Buhari. Au terme de l'entretien qui s'est déroulé à huis clos, l'ancienne ministre de l'Éducation, Obi Ezekwelili, à la tête du mouvement Bring Back Our Girls, a déclaré que M. Buhari avait dit avoir besoin de plus de temps pour retrouver et libérer les jeunes filles kidnappées. Le président nigérien avait déjà dit qu'il était prêt à négocier avec n'importe quel membre crédible de Boko Haram pour obtenir la libération de ces lycéennes. Au moins 276 jeunes filles avaient été enlevées le 14 avril 2014 par Boko Haram à Chibok, dans l'état de Borno. 57 d'entre elles avaient réussi à s'échapper, mais on est toujours sans nouvelles du reste.
En Gambie, la directive officielle qui est imposée depuis le début de l'année aux femmes employées de l'administration de se couvrir la tête a été abandonnée. Cette décision avait été prise en décembre par le président Yahya Jammeh en proclamant son pays État islamique. Maëlys Hagel.
Un État islamique qui respecte les droits des citoyens, c'est ce qu'avait déclaré le président Yahya Jammeh en décembre lors d'une réunion publique, en annonçant qu'il n'y aurait aucune incidence sur la minorité chrétienne. Suite à cela, il avait appelé le personnel féminin à ne plus montrer ses cheveux pendant les heures de travail dans les services publics. Mais aujourd'hui, il revient sur sa décision et décide de l'abandonner, sous prétexte que les femmes sont, je cite, « les meilleures amies du président et qu'il tenait à leur bien-être ». Il ajoute également qu'exiger le port du foulard n'a rien à voir avec la religion. Yahya Jammeh est au pouvoir en Gambie, pays anglophone enclavé dans le territoire du Sénégal, depuis un coup d'État datant de 1994. Il est élu en 96, puis réélu trois fois. Ses détracteurs lui reprochent souvent des décisions unilatérales et des déclarations fracassantes, notamment sur d'autres pays, les migrants ou encore l'homosexualité.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Réunion d'urgence aujourd'hui du Conseil de sécurité de l'ONU. On s'attend à un appel à toutes les parties au conflit en Syrie pour qu'elles mettent fin au siège de villes où des milliers de civils meurent de faim. La réunion a été demandée par la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. Les membres du Conseil devraient entendre à cette occasion des travailleurs humanitaires qui ont pu, pour la première fois depuis des mois, fournir vivres et médicaments aux nécessiteux. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, très en colère, a averti toutes les parties en présence en Syrie qu'utiliser la famine comme arme de guerre est un crime de guerre.
Ici, aux États-Unis, échange vif, plutôt vif, entre Donald Trump et son plus proche rival, Ted Cruz. En effet, les principaux candidats à l'investiture du Parti républicain ont eu un autre débat télévisé hier en Caroline du Sud, l'un des États clés où se tiendra l'une des premières consultations de 2016. Les primaires commencent dans 3 semaines dans l'Iowa. Ils ont ouvert, ces candidats, les hostilités par des attaques contre l'homme qu'ils espèrent remplacer, le président Barack Obama. Ils n'ont pas oublié non plus Hillary Clinton, l'ancienne secrétaire d'État américaine qui mène dans les sondages côté démocrate. Donald Trump, le favori républicain, a défendu ses propositions controversées sur la sécurité à la frontière, position qualifiée de discriminatoire contre les Mexicains et les musulmans.
Et puis une question, Idrissa, Michelle Obama se présentera-t-elle aux élections présidentielles américaines? Son époux, en tout cas, a catégoriquement rejeté cette idée. Anastasie Tudiech.
Alors que Barack Obama entame sa dernière année à la Maison-Blanche, des voix s'élèvent pour sonder, à nouveau, une éventuelle candidature de la première dame. Cette dernière a pourtant fait savoir à plusieurs reprises qu'elle n'était pas intéressée par un quelconque mandat électif. Mais voilà, la cote de popularité de Madame Obama est exceptionnelle et l'exemple des Clinton très présent dans les esprits. Après les deux mandats de Bill, en 1993 et en 2001, Hillary est aujourd'hui en lice dans le camp démocrate pour l'élection de novembre 2016. Interrogée hier à Baton Rouge, en Louisiane, dans le sud des États-Unis, sur une éventuelle candidature de son épouse à la présidence, Barack Obama a répondu « Il y a 3 choses certaines dans la vie, la mort, les impôts et le fait que Michelle ne sera pas candidate ». Lorsqu'il quittera la Maison-Blanche le 20 janvier 2017, Barack Obama aura 55 ans, Michelle Obama en aura 53.
Le groupe État islamique a revendiqué la série d'attentats à la bombe et de fusillades qui ont fait hier à Jakarta en Indonésie 7 morts, dont tous les 5 assaillants. Dans un communiqué publié sur Internet, ces attaques, dit l'organisation État islamique, ces attaques visaient les étrangers et les forces de sécurité chargées de les protéger.
Le gouvernement turc a annoncé jeudi avoir riposté à l'attentat suicide qui a tué 10 touristes allemands à Istanbul en bombardant en Syrie et en Irak plusieurs centaines de cibles du groupe État islamique accusé d'avoir piloté le kamikaze. 2 jours après l'attaque qui a visé pour la première fois en Turquie des étrangers, le premier ministre Ahmet Davutoğlu a dévoilé que l'artillerie turque avait visé en 48 heures près de 500 positions de Daesh en représailles au lâche attentat d'Istanbul.
Publication hier du second volet du rapport de la commission d'enquête de l'Agence mondiale antidopage. Le Sénégalais Lamine Diack, deux de ses fils et d'autres responsables tiraient les ficelles. Bagassi Koura.
Le Canadien Dick Pound, président de la commission d'enquête de l'Agence mondiale antidopage, a livré hier la seconde partie de son rapport qui fera couler beaucoup d'encre et de salive au Sénégal. Lamine Diack est encore une fois écorché. D'après ce rapport, sans le président omnipotent de l'athlétisme mondial, toutes les malversations auraient été impossibles. Réélu à 4 reprises de 1999 à 2015, il a été athlète, sélectionneur national, maire de Dakar et député. Il changeait de maillot facilement pour aller du sport à la politique, au point de recevoir de l'argent de la Russie selon ses propres aveux à la justice française. Son fils, Papa Massata Diack, a été, selon les enquêteurs français, le grand ordonnateur du racket qui aurait rapporté plus d'1 million d'euros. Radié à vie par la commission d'éthique de l'IAAF, il se terre au Sénégal pour échapper à la justice française. Son frère, Halil Diack, lui est aussi impliqué dans le chantage contre l'athlète turc Asli Altekin.
La Minute Éco, Arzuma Compaoré.
Pour le PDG de la maison de champagne Tétinger, Pierre-Emmanuel Tétinger, la consommation de champagne en Côte d'Ivoire enregistre la plus forte croissance au monde. Cela explique pourquoi le groupe français compte doubler ses ventes en Afrique subsaharienne en passant de 150 000 à 300 000 bouteilles en 5 ans, en misant principalement sur le marché ivoirien. Le groupe revendique d'ailleurs la troisième place sur le marché du champagne ivoirien, qui produit 240 000 bouteilles par an pour 23 millions d'habitants, avec une croissance annuelle de 16%. Derrière Mouette et Chadon et Laurent Perrier, Tétinger table sur un chiffre d'affaires mondial de 140 millions d'euros en 2015. Les nouvelles technologies n'ont pas encore tenu leurs promesses économiques en Afrique. Dans son rapport annuel, la Banque mondiale explique que malgré une augmentation de la pénétration d'Internet depuis 2006, le coût du haut débit reste élevé. Les prix d'abonnement à l'Internet et le coût de construction des kilomètres restants pour amener le réseau jusqu'aux utilisateurs finaux constituent des problèmes majeurs. Bien que l'Internet mobile soit très répandu, environ 80% au Maghreb et entre 40 et 80% dans les pays d'Afrique subsaharienne, la plupart des terminaux mobiles ne permettent toujours pas de naviguer sur Internet. Un troisième bombardier pour la compagnie Air Côte d'Ivoire. La compagnie nationale aérienne a acquis le bombardier Dash 8 Q400, un appareil de portée moyenne estimé à 35 millions de dollars, pouvant transporter entre 70 et 80 passagers. Cette acquisition porte la flotte de la compagnie à 8 appareils et de nouvelles acquisitions sont prévues en 2016. Dans un communiqué à la presse, la compagnie indique que des négociations avec Airbus pour la commande de 3 A319 et de 2 A320 sont en cours.
Et maintenant, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
En football, le Real et l'Atlético interdit de transfert pendant un an.
Oui, la sanction qui frappe les deux clubs phares de la capitale espagnole résulte d'infractions sur le recours à des joueurs mineurs. La peine s'applique aux deux prochains mercato, c'est-à-dire l'été 2016 et janvier 2017. Mais les deux formations ont encore le droit d'effectuer des mouvements en ce mois de janvier 2016. L'Atlético puis le Real ont annoncé dans l'après-midi d'hier qu'ils feraient appel.
Toujours en football, transfert. Dame Doy a été prêté à Sunderland jusqu'à la fin de la saison.
Oui, l'attaquant sénégalais en provenance du club turc de Trabzonspor va rejoindre la formation 18e du championnat d'Angleterre. L'ex-joueur de Hull City, âgé de 30 ans, aura pour mission de renforcer l'attaque d'une équipe qui lutte pour sa survie dans l'élite.
Athlétisme, le Britannique Sébastien Coe, l'homme qu'il faut pour réformer la Fédération internationale d'athlétisme.
Le Britannique Sébastien Coe, président depuis août de la Fédération internationale d'athlétisme, est le mieux placé pour réformer cette institution secouée par un scandale de corruption et de dopage. C'est ce que pense le patron de la commission d'enquête de l'Agence mondiale anti-dopage.
JO 2020. Des médailles recyclées aux Jeux de Tokyo.
Oui, les organisateurs des JO de Tokyo 2020 ont préconisé ce jeudi la fabrication des médailles olympiques à partir de métaux recyclés afin de donner une tonalité respectueuse de l'environnement à cette grande rencontre internationale.
11e étape du Dakar 2016.
Le Qatari Nasser Al Attiyah de l'équipe Mini a remporté ce jeudi la 11e étape du Dakar, 712 km entre la Rioja et San Juan en Argentine, où Stéphane Peter Hansen de l'équipe Peugeot se rapproche un peu plus d'une 12e victoire dans le rallye raid. Al Attiyah, victorieux en 2015, s'est imposé au bout des 431 km chronométrés en 4h41 minutes 16 secondes.
Pour terminer le basket, Kobe Bryant toujours largement en tête des suffrages pour le All-Star Game 2016.
La star des Los Angeles Lakers, qui mettra 37 ans un terme à sa carrière en avril 2016, est bien en tête selon la Ligue nationale de basketball. Bryant, sélectionné à 17 reprises par le All-Star Game, totalise plus d'1,5 million de votes devant le meneur de Golden State, Stephen Curry, MVP de la saison 2014-2015, le seul autre joueur à avoir dépassé le seuil du million de votes. La star de Cleveland, LeBron James, est troisième de cette consultation. Et Idrissa, on reste toujours en basketball. Cette fois-ci, vous nous donnez les résultats de la nuit dernière.
Eh bien, Toronto a battu Orlando 106-103, Chicago 115, Philadelphia 111, Détroit 101, Memphis 103. Cleveland 95, San Antonio 99 et enfin Sacramento a battu Utah 103-101.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la commission électorale consulte la société civile et la classe politique du Nord et du Sud Kivu. Le secrétaire rapporteur de cette institution est en tournée dans ces deux provinces pour recueillir les avis des électeurs et membres des partis politiques pour voir comment sauver le processus électoral de Goma. Les précisions de Charlie Kasereka.
Et moi, c'est Bado Sechama Vaumartin. Nous, ce que nous pouvons lui recommander, c'est de respecter seulement la Constitution, que les gouvernements en place aient la volonté d'organiser et d'accompagner la CENI.
Je dis, je suis Georgette Chobo-Lematone. Je suis du PLD, un parti politique de l'opposition. Nous voulons juste savoir s'il y aura élection cette année ou pas.
C'est dans cette ambiance d'un jeu de questions-réponses que s'est tenu le débat entre CENI, Commission électorale nationale indépendante et certains cadres de la classe politique ainsi que celle de la société civile à Goma. La délégation du bureau de la CENI venue de Kinshasa reconnaît les difficultés qui entourent le processus électoral aujourd'hui en RDC d'y venir recueillir les avis et propositions à la base. Le chef de la délégation, le secrétaire rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, explique ici.
Doit-on faire une révision partielle ou totale? Doit-on respecter le calendrier avec ces 11 secrétaires dans les temps qui nous restent? Ou allons-nous trouver les moyens financiers et logistiques pour l'exécution de ces calendriers et tant d'autres précisions.
Pour les présidents de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, il serait mieux que la CENI essaie d'analyser et qu'elle soit réaliste, mais aussi tenir compte des nouveaux majeurs qui ont aussi droit au vote. Gilles Hakizimouami, président de l'Assemblée provinciale au Nord Kivu.
Que la CENI essaye de s'asseoir d'examiner qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable. Par exemple, à la question de la révision du fichier électoral, tenant compte de l'inclusivité, les nouveaux majeurs doivent être également enrôlés. Que la CENI soit réaliste. Compte tenu de ce calendrier qui n'est plus applicable, nous avons demandé que ce calendrier soit réaménagé et mettre le gouvernement devant sa responsabilité.
La question reste, dis-moi, à savoir si les propositions et avis donnés dans ces débats seront prises en compte par cette institution d'accompagnement de la démocratie en RDC. Charlie Kasereka, Goma pour VOA Afrique.
En Italie, Cher Tidiane Diaw, un jeune Sénégalais de 27 ans, a été arrêté hier à Florence. Il est accusé du meurtre d'une Américaine, Ashley Olsen, qui a été retrouvée morte vendredi dernier dans son appartement. Cette mort a attiré l'attention des médias, surtout après le meurtre en 2007 de l'étudiant britannique Meredith Kirsche à Pérouse, non loin de Florence. Le jeune Sénégalais a admis à la police avoir tué l'Américaine par accident après une dispute. L'émotion et l'angoisse sont vives parmi les immigrés, d'autant que 4 Sénégalais avaient déjà été assassinés en Italie. Idriss Fall a joint à Milan Alassane Sidi, un responsable de l'Association des Sénégalais en Italie.
Justement, depuis 3 jours, la police italienne était sur les traces du présumé mort parce qu'il s'agit d'une Américaine qui s'est établie en Italie depuis quelques années, qui s'active un tout petit peu dans l'art. Cette dernière a été retrouvée étranglée dans sa chambre. Selon les informations qui nous sont parvenues aujourd'hui et avec le témoignage de certains de nos compatriotes, il s'est avéré que c'est un jeune Sénégalais du nom de Cher Diaw qui a été finalement arrêté comme étant le présumé meurtrier de cette dame. Et en fin de compte, il a même avoué l'avoir tué, mais c'était en fait sans vouloir le faire réellement, quoi, parce que c'est juste après une altercation que cette dernière est tombée. La tête a cogné le mur. Et voilà pourquoi donc ce dernier a été arrêté.
Apparemment, la victime et la personne interpellée se connaissaient relativement bien, non?
Bon, selon les sources concordantes de la police italienne, après, disons, un interrogatoire de près de 4 heures d'horloge, Sergio a été finalement accusé et il a même admis avoir quand même commis ses meurtres, a affirmé avoir connu cette dame dans une discothèque, là où ils se sont connus et il y a eu cette relation entre eux. Mais ce n'était pas des personnes qui se connaissaient déjà depuis belle lurette. C'est juste une relation qui venait juste de débuter entre eux.
Ce meurtre volontaire ou involontaire, ça ne va pas aider la communauté immigrée en Italie, non? Qui a souvent été l'objet d'attaques ou d'accusations.
Bon, malheureusement, on se rappelle de ce qui s'est passé il n'y a même pas 4 ans, quand un Italien avait froidement assassiné 3-4 Sénégalais. Tout cela avait quand même soulevé un tollé. Les communautés étrangères, tous réunis, quand même, avaient dénoncé rigoureusement cette acte. Et voilà, aujourd'hui, il y a eu ce retour de bâton en quelque sorte. Aujourd'hui, ce sont les étrangers, en particulier les Sénégalais, qui sont pointés du doigt. Et cela aussi n'arrange pas les choses ici en Italie, dans la mesure où, depuis quelques années, il y a ce problème de la droite qui essaie de gagner du terrain. On parle beaucoup des immigrés, de la violence, de la clandestinité. Ça devient une nouvelle tache noire qui vient quand même s'ajouter par rapport à tout ce qui a été dit de négatif pour l'immigration.
Alassane Sidi, un responsable de l'Association des Sénégalais à Milan, en Italie.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le tribunal de première instance de Yaoundé servira de cadre le jeudi 28 janvier 2016 pour la première audience entre la Ligue camerounaise des consommateurs, l'Agence de régulation des télécommunications et les opérateurs de téléphonie mobile MTN et Orange Cameroun. Cette audience, selon la Ligue camerounaise des consommateurs, est la suite, et je cite, « au mauvais traitement infligé au quotidien aux abonnés de ces deux opérateurs dont le point culminant est la publicité mensongère relative au lancement de la 4G » mercredi 16 décembre 2015, et l'escroquerie des abonnés qui s'en est suivie. Fin de citation. John Lyndon s'est entretenu avec Delors Magellan Kamse Kamgeng.
Suite au mauvais traitement infligé au quotidien à leurs abonnés, dont le point culminant est la publicité mensongère et l'escroquerie relative au lancement de la 4G, mercredi 16 décembre 2015, la Ligue camerounaise des consommateurs a donc assigné en justice pour réparation en dommages intérêts MTN, Orange et l'ART.
Est-ce que votre plainte a les chances d'aboutir?
Bien sûr que notre plainte a les chances d'aboutir parce que nous nous appuyons sur des faits tels que nous demandons au juge de voir et constater que depuis le 16 décembre 2015, sous le regard attentif et complice de l'ART, une publicité mensongère de la 4G est opérée par les sociétés Orange et MTN, de constater que les consommateurs camerounais ont déboursé des sommes d'argent significatives pour accéder à ces nouveaux services, constater que malheureusement, le service non médiatisé n'existe pas, et dire telle absence préjudiciaire aux intérêts des consommateurs camerounais dont la Ligue représente, condamnée par conséquent les entreprises Orange et MTN, ensemble à l'apparition de tels préjudices au paiement de telles sommes d'argent. Et la deuxième assignation à référer en heure est donnée à l'ART, Agence de régulation des télécommunications au Cameroun, par le même huissier de justice, qui est donc nous demandons que le juge, pour ce qui concerne cette deuxième assignation, puisse voir et constater que les opérateurs des réseaux de télécommunications électroniques Orange MTN ont depuis le 16 décembre lancé une vaste campagne de publicité et constater que l'ART, dans ses missions régaliennes, devait d'une effectivité opérationnelle de la 4G constater la défaillance et sanctionner les opérateurs pour publicité mensongère et escroquerie vis-à-vis des consommateurs camerounais.
Alors,
malheureusement,
et qu'est-ce que vous réclamez en termes de dommages et intérêts si jamais votre plainte aboutissait?
En termes de dommages et intérêts, si jamais notre plainte, si le juge fixe, nous allons calculer avec les experts de ces questions-là. Pour le moment, ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. Pour le moment, l'urgence est que l'ART puisse jouer son rôle, c'est-à-dire amener ses opérateurs à cesser avec cette arnaque, cette escroquerie, parce que la 4G n'existe pas au Cameroun.
Et de manière générale, comment jugez-vous l'offre et la qualité des services en matière de communication et télécommunication au Cameroun?
Justement, Malheureusement, si la 4G existait, c'est que cette offre-là est une offre de qualité. Malheureusement, on a une piètre qualité de service en matière de communication électronique au Cameroun. Et donc, malgré cela, ces gens viennent donc insulter davantage le consommateur en promouvant du vent une 4G effective. Alors que si la qualité du service s'était améliorée, les consommateurs devaient être plutôt contents de la venue de la 4G, alors que la 3G est arrivée seulement en mars 2014, la 4G arrive en décembre, alors que les consommateurs n'avaient même pas encore commencé à bénéficier de la 3G, parce que quand la 3G est arrivée, rien ne s'est amélioré. Et pendant que les plaintes s'amoncelaient, curieusement, on ne parlait de 4G, alors que la 3G déjà ne donne pas réellement satisfaction.
Eh bien, c'était Delor Magellan Kams Kangeng de la Ligue camerounaise des consommateurs.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Enfin, la République centrafricaine, à 500 km de la capitale Bangui, dans le sud-ouest du pays, vivent dans une région isolée, les pygmées Bayaka. Selon les dernières recherches des anthropologues, ils sont menacés pour avoir été obligés de quitter la forêt, désormais classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Leurs traditions et modes de vie tendent à disparaître. Dans le village de Belengboke, quelques 1500 Bayaks tentent de s'adapter au monde extérieur et aux autres communiqués. Tatiana Mosso a profité de son récent voyage en RCA pour s'entretenir avec Basile, un des anciens du village.
Les Bayakas vivaient en forêt. Ils se nourrissaient grâce à la cueillette des champignons, des feuilles de coco. S'ils vont à la chasse, ils ramènent à leur patron. Et grâce à leur patron, maintenant, on leur donne un peu de manioc pour mieux vivre.
Donc les Bayakas étaient les employés des villageois ou ils étaient plutôt exploités?
Oui, ils étaient exploités. Donc les bilots étaient leur patron. Comme moi, je travaille sous quelqu'un. Donc si j'ai quelque chose aujourd'hui, j'arrive, je lui donne. Ou je trouve du diamant, je viens, je lui montre. Voilà ce que j'ai trouvé et à lui maintenant d'aller manger. Et après, il dit bon, merci, comme j'ai trouvé quelque chose, je te donne un peu quelque chose.
Un Bayaka trouve un diamant, que ce diamant-là vaut 30 000.
Oui.
Il apporte à son patron.
Oui.
Son patron va lui donner
5 000.
Donc en fait, les Bayakas étaient exploités et volés.
Voilà, comme ils vivent en dessous des bilots et ils ne connaissent rien dedans. Tout ce qu'ils trouvent, ils montrent à son patron et c'est à son patron maintenant de lui donner quelque chose.
Est-ce que vous n'avez pas peur pour l'avenir des générations futures?
Et avec les enfants d'aujourd'hui qui sont à l'école, qui cherchent maintenant de devenir des gens, et que les enfants eux-mêmes se déplacent pour aller à Noula, revenir. Donc ils connaissent déjà que là je peux partir, je peux revenir. Je connais parler sango, langue nationale. Donc ils n'ont plus peur. C'est un développement qu'on sait qu'on ne peut plus aller en arrière.
Mais alors toutes les connaissances que vous, que vos pères, grands-pères ont pu avoir, vous n'avez pas peur que ça disparaisse?
Ce qui disparaît maintenant, ce sont des choses que les vieux auparavant ont utilisées pour garder leur corps. Des choses qu'ils peuvent faire pour éviter que si le gorille vienne, il ne faut pas que ça les attaque. L'éléphant vient, il ne faut pas que ça les attaque. Ça, ce sont des choses anciennes. Et la plupart des gens ont été déjà baptisés. C'est pour dire que croyons seulement à Dieu.
Est-ce que vous pensez que c'est ça l'avenir des Bayakas? C'est-à-dire de servir aussi bien pour le braconnage que pour la protection des parcs?
Bon, c'est ce que les Bayakas ne devaient pas faire. Parce que la vie devient chère aujourd'hui.
Les jeunes hommes Bayakas sont facilement influençables par tout ce qu'il y a aujourd'hui, parce qu'on est capable de les acheter avec de l'alcool, on est capable de les acheter juste avec des cigarettes, ou encore on m'a parlé de cachets qu'ils prennent et ils sont complètement perdus.
D'abord, ils visent l'argent, mais ce n'est pas le métier qui les intéresse. Parce qu'aujourd'hui, il va travailler. 2 mois, 3 mois après, non, l'argent n'est pas costaud. Librement, il quitte. Mais c'est un fait difficile que tu saches que celui-là, c'est un drogueur. En plus, les comprimés qu'ils vont acheter, c'est ça qui fait qu'il y a toujours la mort. Parce que les gens viennent te tromper et te disent, non, prends ça, tu es mon ami, voilà ce que moi je vis à cause de ça, ça. Tu prends, or que ce que tu es en train de prendre, c'est ça qui va te tuer ou plus tard, c'est ça. Et après, quand tu deviens esclave de ça déjà, toi-même tu te tues. Bien sûr, les drogues, quoi, ça se vend un peu partout, même si les prêtres sont en train d'interdire, mais ça rentre partout.
C'était un entretien de Tatania Mosso avec un des anciens du village Bayaka de Belengboke en RCA, Basile. Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.